بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ورحم الله علماء أهل السنة والجماعة. Donc aujourd'hui, inshallah, on va continuer le cours concernant les 40 hadiths de l'imam Nawawi رحمه الله. Et nous sommes, par la grâce d'Allah, nous sommes arrivés au 5e hadith. والحديث اليوم هو الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة رضي الله عنها la mère des croyantes rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sera rejetée toute innovation à nos enseignements. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et dans une version de l'imam Muslim, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout acte non conforme à nos enseignements est à rejeter. فلنبدأ بترجمة راوي الحديث. Donc commençons tout d'abord par une brève biographie du rapporteur du hadith. وراوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنه الصديقة بنت الصديق وكنيتها أم عبد الله. Concernant le rapporteur du hadith, il s'agit de Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Donc il s'agit de la véridique fille du véridique radiyallahu anhuma. Et sa kunya est Abdillah. Et on lui a donné comme kunya Abdillah, certains savants disent par rapport au fils de sa sœur Asma et de son mari Az-Zubayr qui s'appelait Abdullah. Et aussi certains savants disent qu'elle-même, radiyallahu anha, s'est donné cette kunya. Car les noms les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont Abdullah et Abdurrahman. Et d'autres savants, comme Sheikh Al-Uthaymin le cite, disent qu'elle aurait fait une fausse couche. Et pour cet enfant, on le rappelait Abdillah. Wa hiya radiyallahu anha Ummul Mu'minin. لأنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وعمرها 6 سنوات ودخل بها صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي بنت 9 سنوات ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أريتك في المنام مرتين وإذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأنا أقول إن يكن هذه من عند الله يمضيه. والحديث رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها aussi le titre de أم المؤمنين, la mère des croyants, parce qu'elle fait partie des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle à la Mecque alors qu'elle avait 6 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Aïcha radiallahu anha à Médine alors qu'elle avait 9 ans. C'était une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi toutes ces femmes, la seule vierge avec qui il s'est marié, c'était Aïcha radiallahu anha. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, avec des paroles différentes, la parole suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant avec Aïcha, « Je t'ai vu 2 fois dans mon rêve, alors qu'un homme te portait dans de l'étoffe de soie. » Et cet homme lui a dit, « Ceci est ton épouse. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, « Si telle est la décision d'Allah, il en sera ainsi. » أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أبغض الناس إلى الروافد الشيعة قتلهم الله. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة. فقلت من الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها أي أبو بكر. ثم قال من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. ثم عد رجالا. يا عائشة رضي الله عنها إلى personne que le prophète صلى الله عليه وسلم aimait le plus. Il a été rapporté dans le hadith, Amr ibn al-As a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, ô prophète d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Aïcha. Et ensuite, il a dit, ya Rasulullah, et parmi les hommes, quelle est la personne que tu préfères le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son père, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu. Il lui a dit, qui après ya Rasulullah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita d'autres personnes. Et là, on voit bien la différence entre les gens de la sunna. On voit bien la différence entre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chiites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne dont il aime le plus, c'est Aïcha. C'est Abu Bakr et Omar. À la différence des chiites, qui eux, les personnes qui détestent le plus, sont Aïcha radiallahu anha, sont Abu Bakr et sont Omar ibn al-Khattab. Regardez la différence entre le jour et la différence avec la nuit qu'Allah nous en préserve. Wa min manaqibiha radiallahu anha, ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. Et parmi les mérites de Aïcha radiallahu anha, il y a ceux qu'on va citer dans deux hadiths authentiques. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والحديث رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, et parmi les femmes, celles qui ont atteint la perfection, il y a Maryam, la fille de Imran, Asiya, la femme de Pharaon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et le mérite de Aïcha sur l'ensemble des femmes est semblable au mérite du Thérid sur l'ensemble des plats. Et le Thérid, c'était un des meilleurs plats de l'époque, qui était composé de pain et de sauce. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Aishata, inna Jibril yuqri'u alayka as-salam, faqalat wa alayhi as-salam wa rahmatullah. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et parmi aussi les mérites de Aisha radiallahu anha, c'est que Jibril alayhi salam a passé le salut sur Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en a informé. Et elle a dit, sur lui le salut d'Allah et la miséricorde d'Allah. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim. Wa min manaqibiha radiyallahu anha, ghazaratu ilmiha radiyallahu anha. Et parmi les mérites de Aïcha radiyallahu anha, notre mère radiyallahu anha, et la mère des croyants, c'est l'abondance de sa science. Elle était la plus savante des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même la plus savante des femmes en général en matière de religion. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه أو إلا وجدنا عندها منه علما رضي الله عنها. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه rapporte, il dit à chaque fois que nous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions des difficultés concernant un hadith et que nous interrogions Aïcha radiallahu anha, nous trouvions auprès d'elle une science abondante et une explication à ce hadith. Le hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah et à la base du hadith, il est dans Sunan Tirmidhi. Wa qala al-Zuhri rahimahullah, لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وعلم جميع النساء كان علم عائشة أكثر. L'imam Zuhri rapporte, il dit, si on assemblait la science, le savoir de Aïcha, à la science de toutes les épouses du prophète, de toutes nos mères, et à la science de toutes les femmes en général, eh bien la science de Aïcha radiallahu anha serait la plus abondante. Wa qala Masruq radiallahu anhu, نحلف بالله لقد رأينا الأكابير من أصحاب رسول الله يسألون عائشة عن الفرائض. مسروق rapporte, dit par Allah, j'ai vu les grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam questionner Aïcha sur les règles de l'héritage. Tous ces hadiths montrent l'abondance de science, la grande science de Aïcha radiallahu anha. وكانت رضي الله عنها صوامة قوامة صاحبة كرم وزهد وفقه وعلم وحفظ وفصاحة. عائشة رضي الله عنها, notre mère et la mère des croyants, jeûnait et priait la nuit énormément. Elle était connue pour sa grande générosité, pour son ascétisme, sa science, sa bonne compréhension, son éloquence et sa faculté à retenir la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَرُوِيَ عَنْهَا أَلْفَانِ وَمِيَةَ وَعَشَرَةَ حَدِيثًا وَهِيَ أَحَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبَعْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رضي الله عنهم. Et Aïcha رضي الله عنها, il nous a été rapporté d'elle 2210 hadiths. Et elle fait partie de celles qui nous ont apporté le plus de hadiths, après Abu Huraira, après Abdullah ibn Umar ibn Khattab, et après Anas ibn Malik, radiyallahu anhum. Wa tufiyat sanat 57 hijriyan, wa umruha 66 sanah, wa dufinat bil baqi' bil madinah. Et Aïcha, radiyallahu anha, est morte la 57e année de l'Hégire. Et à sa mort, elle avait 66 ans, radiyallahu anha, et elle a été enterrée au cimetière du Baqi'. Elle a vécu 40 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, elle avait 6 ans. Lorsqu'il a consommé le mariage avec elle, elle avait 9 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, elle avait 18 ans. Et elle est morte à l'âge de 66 ans, radiyallahu anha. هذا فيما يتعلق براوي الحديث بأمنا عائشة أم عبد الله أم المؤمنين. Ceci concerne le rapporteur du hadith, qui est la personne de Aïcha, notre mère et la mère des croyants, la mère de Abdullah, radiyallahu anha. والآن نتكلم عن منزلة الحديث. Maintenant nous allons parler de l'importance du hadith. Pourquoi l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, a-t-il cité ce hadith dans les 42 hadiths al-Nawawiyyah? Et pourquoi l'a-t-il mis en cinquième position? هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقاعدة عظيمة في إنكار البدع والمخالفات وأن الدين دين اتباع لا دين ابتداع. Ce hadith est l'une des bases les plus importantes parmi les bases de notre religion. Ce hadith est une règle importante concernant le fait de rejeter les innovations religieuses et de rejeter toute transgression et divergence avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que notre religion est une religion du suivi. Et notre religion n'est pas une religion d'innovation et d'invention religieuse. Qala al-imam ibn Rajab, al-hafid ibn Rajab, rahimahullah, هذا الحديث أصل عظيم من أصول هذا الدين كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهذا الحديث أي حديث عائشة ميزان للأعمال في ظاهرها. الإمام ابن رجب رحمه الله rapporte dans son livre جامع العلوم والحكم, il dit ce hadith est un des fondements les plus importants des fondements de notre religion. De même que le hadith de Omar, إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent que par leurs intentions, évalue les actes en fonction de leur aspect intérieur, de même ce hadith, le hadith de Aïcha, évalue les actes selon leur aspect extérieur. Ces deux hadiths sont une balance. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. Ibn Rajab rahimahullah continue en disant, il éclaircit ses propos en disant, de même que toute action entreprise sans le désir de plaire à Allah sera sans récompense, de même toute action non conforme aux ordres d'Allah et de son prophète sera rejetée. Et quiconque innove en matière de religion ce qu'Allah et son prophète n'ont pas autorisé, ceci n'appartient en rien à la religion d'Allah. Ceci n'est pas l'islam. Ceci n'est pas le Coran, ceci n'est pas la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور أو عليها مدار الإسلام. Ce hadith fait partie des hadiths autour duquel l'islam pivote, l'islam tourne autour de ces hadiths. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات, حديث عائشة هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, وأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف على الشبهات, وهذا كله تضمنه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ahmed rahimahullah dit les fondements de l'islam tournent autour de trois hadiths. Faut retenir cette parole, elle est très importante. Les fondements de l'islam tournent autour de trois hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de Omar, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallam dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Le premier hadith. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Aïcha. C'est le hadith où le prophète sallam dit, sera rejetée toute innovation à nos enseignements, ou sera rejeté tout acte non conforme à notre enseignement, à notre religion. Et le troisième hadith, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir, où le prophète sallam dit, le halal est explicite, et le haram est explicite, et entre eux il y a des ambiguïtés. Et toute la religion se résume à accomplir des ordres, ou à éviter des interdits, ou s'abstenir face aux ambiguïtés. Et ces trois points sont contenus dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله, وهذا ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام أحمد continue en disant et accomplir les ordres d'Allah, accomplir les obligations, délaisser les interdits ou s'abstenir face aux ambiguïtés, ne sera possible qu'avec deux choses. La première, c'est que l'acte doit être en conformité avec la sunna du prophète sallam. Et ça est le sens du hadith qu'on voit aujourd'hui, où le prophète sallam dit, sera rejetée toute innovation à nos enseignements, ou tout acte non conforme à nos enseignements sera rejeté. Et le deuxième point sans lequel on ne peut pas concrétiser notre religion, c'est que l'acte doit être intérieurement, il doit être fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le sens du hadith de Omar. إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par leurs intentions. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. Voilà pour ce qui est la parole de l'imam Ahmed. لهذا قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. Et c'est pourquoi l'imam النووي رحمه الله disait à propos de ce hadith: ce hadith fait partie des hadiths à apprendre par cœur et à utiliser pour rejeter et rendre nul toute innovation et tout acte contredisant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Voilà quelques points concernant l'importance de ce hadith. À la lumière des points qu'on vient de citer, on comprend l'importance de ce hadith dans notre religion. ما يستفاد من الحديث. Quelles sont les leçons à retenir concernant ce hadith? ونذكر تسعة فوائد. Et nous allons citer 9 leçons à retenir, inshallah. الفائدة الأولى أن الإسلام دين كامل لا مجال فيه للزيادة ولا النقص. وهذا يشمل العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. La première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une religion complète, qui n'a nul besoin qu'on y retranche, qu'on y enlève des choses, et qui n'a nul besoin qu'on y en ajoute, en innovant dans la religion d'Allah. Et ceci, ce qu'on vient de dire, s'applique sur la croyance, sur les adorations, sur les comportements et sur les relations et tous les points de la religion. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وذلك لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وهذا قاله الإمام مالك رحمه الله في زمانه فما بالك بهذا الزمان. Et concernant la première leçon à retenir, l'imam Malik, il est rapporté de l'imam Malik rahimahullah, l'un des grands imams de l'islam, la parole suivante. Il a dit: celui qui innove dans la religion d'Allah, celui qui innove dans la religion d'Allah et considère que son innovation est une bonne innovation, c'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. La religion est complète. Et je vous ai comblé de mon bienfait. Et j'ai accepté l'islam pour vous comme religion. Et l'imam Malik rahimahullah dit aussi: ce qui à l'époque ne faisait pas partie de l'islam, ne fera jamais partie aujourd'hui de la religion d'Allah. Regardez cette parole de l'imam Malik. À l'époque à son époque, que devons-nous dire à notre époque? Où les gens sont loin de la religion d'Allah, où les gens innovent, aussi bien dans la croyance, aussi bien dans les adorations, que dans les autres points de l'islam. Al-fa'idatu thaniya, anna asla al-maraji' fi d-din al-Qur'an wa sahih as-sunnah wal-ijma'. وذلك بالرجوع إلى فهم الصحابة لا إلى إحداث البدع ولا إلى مخالفة الشرع. La deuxième leçon à retenir concernant le hadith de Aïcha radiallahu anha, c'est que la base et la source, les bases et les sources en islam et sur laquelle s'appuie l'islam sont le Coran, sont l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus. Et il y a obligation de revenir à la compréhension des sahaba radiallahu anhum dans les textes du Coran, dans les textes de la Sunna. Et en aucun cas, en innovant dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en transgressant les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة الثالثة وجوب الرجوع إلى النصوص أي إلى القرآن وصحيح السنة وتحريم الابتداع والمخالفات في الدين فإن كل بدعة ضلالة وكل مخالفة فتنة وعذاب على صاحبها والعياذ بالله ونسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. Troisième point, troisième leçon à retenir concernant le hadith de Aïcha radiallahu anha, c'est l'obligation de revenir au texte, c'est-à-dire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'interdiction d'innover dans la religion d'Allah ou de transgresser les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre religion. Parce que toute innovation est un égarement et toute transgression à la religion est une épreuve. Est un châtiment pour celui qui l'a commis et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. الفائدة الرابعة أن كل البدع والمخالفات في الدين مردودة وهذا في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. La quatrième leçon à retenir concernant le hadith de Aïcha, c'est que toutes les innovations religieuses, les inventions religieuses, toutes les transgressions à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la religion en général sont rejetées. Et ceci est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « sera rejetée toute innovation à nos enseignements ». Et aussi « tout acte non conforme à nos enseignements est rejeté ». فالعقائد والعبادات والمعاملات إذا أحدثت وليس لها أصل في الشرع أو إذا فعلت وكانت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة وصاحبها مستحق للوعيد ونسأل الله أن يحفظنا. Et donc découle du quatrième point cité, c'est-à-dire que toute innovation et toute transgression dans la religion sera rejetée, il découle de cela que toute croyance, toute adoration, toute pratique que les gens ont inventée et qu'il n'y a aucune source dans la religion d'Allah, ou tout ce que les gens font qui va à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la religion d'Allah, eh bien tout ceci est rejeté. Et celui qui a commis cette innovation ou celui qui a commis cette transgression à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la religion d'Allah mérite le châtiment d'Allah. والعياذ بالله. الفائدة الخامسة أن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو مردود ولو كان حسن النية ولو كانت نيته حسنة ولو كان يريد التقرب إلى الله. Le cinquième point, la cinquième leçon à retenir, c'est que tout ce qui est innové dans la religion d'Allah, on parle d'innovation religieuse, et qui ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a aucune source dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette innovation sera rejetée. Même si l'intention de la personne qui l'a commise, même si l'intention de la personne, de celui qui l'accomplit, est bonne. Parce qu'on ne regarde pas seulement l'intention. L'intention certes doit être bonne et sincère pour Allah, mais l'acte doit être fait en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة السادسة أن من عمل عملا ولو كان أصله مشروعا ولكن على غير الوجه المشروع فإنه مردود ولو كان قصد صاحبه حسنا فالنية الحسنة لا تجعل البدعة سنة ولا تجعل المخالفة اتباعا أبدا. La sixième leçon à retenir concernant le hadith de Aïcha radiallahu anha, c'est que tout acte commis, même s'il a une base dans la religion d'Allah, mais qui n'est pas fait conformément à la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cet acte sera rejeté. Même si l'intention de la personne est bonne. Parce que l'intention ne rend jamais une bid'a, une innovation, ne la rendra jamais une sunnah. Et la bonne intention ne rendra jamais une mukhalafa, une transgression à la sunna du prophète sallam ne rendra jamais un ittiba, un suivi. Jamais. On va donner quelques exemples concernant ce point et les points qu'on a cités précédemment, pour que les choses s'éclaircissent dans nos esprits. Si par exemple une personne fait 5 prières, 5 rak'at pour la prière de dhuhr, parce qu'il veut se rapprocher plus d'Allah, est-ce que sa prière sera acceptée? Jamais. Pourtant son intention est bonne, mais parce que cet acte, cette prière n'est pas faite selon la sunna du prophète sallam. Et pourtant la prière a une origine dans l'islam. Autre exemple, prenons une personne qui veut sacrifier pour la fête de l'Eid une poule ou un cheval. Est-ce que son sacrifice sera accepté? Il ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'on doit sacrifier ce que la religion nous a demandé de sacrifier. Autre exemple, prenons le cas d'une personne qui sacrifie un mouton, cette fois-ci, mais avant la prière de l'Eid. Est-ce que son sacrifice sera accepté? Son sacrifice n'est pas accepté. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui a sacrifié avant la prière de l'Eid, il lui a dit « Sha'atuka, sha'atulah ». Le mouton que tu as sacrifié n'est pas un mouton qui sera comptabilisé comme un sacrifice, mais ça sera un mouton que tu pourras manger la viande. Prenons l'exemple d'une personne qui fait l'i'tikaf. Est-ce que l'i'tikaf a une origine dans notre religion? Il a une origine. Mais si la personne fait l'i'tikaf chez elle, ou si la personne fait l'i'tikaf à l'école, ou à l'université, ou dans son lieu de travail, est-ce que cet i'tikaf sera accepté? Non. Pourtant, l'intention peut être bonne. Pourtant, c'est un acte qui a son origine dans la religion, mais qui n'est pas fait selon la conformité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple d'une personne qui vend un produit après l'adhan de l'jumu'ah. Il y a bien une vente, mais islamiquement parlant, cette vente n'est pas valable. Donc tout acte qui est fait non conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si l'intention est bonne, cet acte sera rejeté. Parce qu'on doit avoir une bonne intention et en même temps la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة السابعة ما الفرق بين المبتدع ومخالف السنة؟ Quelle est la différence, ou plutôt il y a une différence entre le mubtadi, celui qui innove dans la religion d'Allah, qui invente dans la religion d'Allah, et celui qui est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux personnes ne sont pas identiques. لا يقال لمن خالف السنة ولم يلتزمه إنه مبتدع فيقال خالف السنة في عمله ولا يقال إنه مبتدع إلا إذا التزم مخالفة السنة بعد البيان وجعل ذلك دينا يلتزمه فحينئذ يقال عنه مبتدع. On ne doit pas appeler une personne qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas l'appeler مبتدع tant que cette contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devient pas une habitude. On dira de cette personne, khalafa sunna, elle était en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas on dira que c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Sauf si cette mukhalafa de la sunna, cette contradiction avec la sunna devient une habitude, qu'il accomplit régulièrement. Alors à ce moment-là, et après lui avoir expliqué l'erreur dans laquelle il est, à ce moment-là, cette mukhalafa devient une bid'a, et à ce moment-là, celui qui commet cette mukhalafa, cette divergence avec la sunna du prophète sallam, devient un mubtadi', qu'Allah nous en préserve. Donc on voit le danger de diverger avec le prophète sallam et de prendre l'habitude dans cette divergence. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, la règle, le point concernant l'iltizam, c'est-à-dire l'assiduité dans le fait de contredire la sunna du prophète sallam, c'est un point très important pour faire la différence entre la bid'a et faire la différence entre diverger avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'a hadha, fi kilta al-halatayn, ay al-ibtida' wal-mukhalafa, fal-amal mardoud. Et dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une innovation religieuse, ou qu'il s'agisse ou d'un acte fait en contradiction avec la sunna du prophète sallam, dans les deux cas, l'acte est rejeté. Al-fa'idatu thamina, al-riwayatu allati 'inda muslim, وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية التي في الصحيحين وهي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنها تشمل من عمل البدعة والمخالف للسنة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها أو تابعا من أحدثها. La huitième leçon à retenir concernant le hadith de Aïcha radiallahu anha, c'est que la version rapportée par l'imam Muslim, c'est-à-dire la parole du prophète sallam, tout acte non conforme à nos enseignements sera rejeté. Cette version-là est plus globale, plus générale que la version rapportée par l'imam Muslim et le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « sera rejeté toute innovation à nos enseignements ». Pourquoi ? Parce que la version de l'imam Muslim englobe à la fois celui qui innove dans la religion d'Allah. Elle englobe celui qui fait une innovation et celui qui pratique un acte non conforme à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la version de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim concerne seulement celui qui innove dans la religion d'Allah, azza wa jal. Al-fa'idatu at-tasi'a anna al-asla fi al-ibadat al-man' حتى يقوم دليل على مشروعيتها وأن الأصل في الأشياء والعادات الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها ومنعها. La neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, et c'est la dernière, c'est que en islam, la règle concernant les adorations, c'est on doit s'abstenir tant qu'il n'y a pas un hadith ou une preuve du Coran et de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve qu'on doit faire cet acte. Alors que la règle concernant les choses, concernant les habitudes, concernant les boissons, les nourritures, concernant les comportements, la base, la règle dans ces choses-là, c'est la permission, c'est permis de le faire. Tant qu'il n'y a pas une preuve du Coran et de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve que c'est interdit de le faire. Vous avez vu la différence ? Il ne faut pas confondre les adorations et il ne faut pas confondre l'ashia, les choses et les comportements. Et on va terminer, inshallah, par quelques paroles de Sheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, concernant ta'rifu al-bid'a wa aqsamu al-ibtida'. Pour que les choses soient claires dans nos esprits. Yaqul al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, al-bid'atu lughatan مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها على غير مثال سابق ومثل قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. Concernant la définition du mot bid'a, de l'innovation dans la langue arabe, le mot bid'a, et c'est un dérivé du terme al-bad'u. Et al-bad'u, c'est une invention sans précédent. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme dans le Coran, par exemple lorsqu'il dit badi'u samawati wal ard. C'est-à-dire l'inventeur, le créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire avant la création et des cieux et de la terre, il n'existait pas ni des cieux ni la terre. Et aussi, par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kuntu bid'an min ar-rusul » où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « dit je ne suis pas une innovation, une nouveauté, quelque chose de nouveau parmi les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. » Donc on comprend que le sens du mot bid'a, c'est invention, innovation. Et on dit aussi donc, un tel a commis une bid'a, c'est-à-dire s'il a instauré une voie que personne avant lui n'avait établie. Ça c'est le sens du mot bid'a dans la langue arabe. Maintenant, on va voir le sens du mot bid'a dans al-sharia, al-din. فَالْبِدْعَةُ فِي الدِّينِ عَلَى قِسْمَيْنِ ابْتِدَاعٌ في العادات كابتداع المخترعات المخترعات الحديثة وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة وابتداع في الدين وهو ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من عقيدة وعمل ولفظ، وهذا محرم، لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع. Concernant les deux catégories de bid'a qui existent, il existe deux bid'a, deux formes d'innovation. Il existe les innovations dans les habitudes, dans les choses mondaines, comme par exemple les inventions modernes, par exemple l'avion, les chemins de fer, les montres, les voitures. Ceci est permis en islam, parce que la base, la règle, comme on a dit précédemment, dans les choses, c'est que tout est permis, tant qu'il n'y a pas de preuves qui montrent que c'est interdit. Et lorsqu'on parle de bid'a dans le Coran et dans la Sunna, ce n'est pas de ce genre d'innovation dont on parle. Ceci est permis en islam. La deuxième forme de bid'a qui existe, c'est des bid'a, des innovations religieuses. C'est-à-dire, c'est tout ce qui a été inventé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et que ses compagnons n'ont pas fait. Que ça soit de la croyance, que ça soit des actes ou que ça soit des paroles. Et cette forme de bid'a est interdite. Toutes ces formes de bid'a sont interdites sans exception. Et il faut savoir que les innovations religieuses, on parle bien d'innovations religieuses, sont à la fois dans les croyances et sont à la fois aussi dans les adorations. Et les adorations, les innovations dans les croyances sont pires, sont plus graves que les innovations dans les adorations. Et parmi des exemples de bid'a, d'innovations dans les croyances, il y a par exemple ce que professe Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, les chiites Al-Rawafid. Parce que leur croyance n'est pas conforme à la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a et n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait et à ce que les sahaba radhiyallahu anhum croyaient. Et regardez, ces croyances-là ne sont venues que bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment donc peuvent-elles faire partie de la religion d'Allah azza wa jalla? Puisqu'Allah a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé ma religion. Donc le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la religion est complète. Et toute croyance qui viendra après, donc la croyance des Jahmiya, des Rawafid, des Ash'ariya, toutes ces croyances-là ne peuvent être bonnes et donc sont mauvaises. Et aussi, il existe des croyances dans les cultes, c'est-à-dire faire une croyance différemment de le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient radiyallahu anhum. Donc on termine, inshallah, en lisant le hadith. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc عائشة رضي الله عنها la mère des croyantes rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « sera rejetée toute innovation à nos enseignements » hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « tout acte non conforme à nos enseignements est à rejeter. » Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.